Radio Zaï accueille Mardi Vision.
J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
Un podcast proposé par la médiathèque de l'École d'art d'Aix-en-Provence et ses étudiantes.
De mardi dernier où on a regardé un extrait d'À l'ouest des rails de Wang Bing, et donc on a regardé la quatrième partie qui s'intitule Rail.
La même route, les mêmes rails, finissent leur journée, ils remontent, ils descendent, ils vont prendre le village, ils remontent.
Entre ces lignes de la voie ferrée, il n'y a que la scène où il va en prison. On a un peu d'horizon, mais c'est quand même pour aller en prison. Pour aller chercher la repère de prison. Donc, mais c'est fou entre ces deux murs avec la voie ferrée. Uniquement, et ça, ouais. Ça aussi, c'est un choix comme esthétique très fort. Quoi. C'est là qu'on voit qu'il y a une construction très très rigoureuse. Parce qu'il a 300 heures de rush.
Mais moi, je pensais qu'avec 300 heures de rush, justement, il y aurait une sorte de nouvelle lenteur. Je pensais avoir du mal à accrocher. Et en fait, j'étais plongée dedans directement. Et j'ai pas du tout de sensation de... Enfin, c'était... Je sais pas comment dire. C'est pas pénible du tout. Ça aurait pu être pénible aussi dans un sens. Parce que c'est une vie qui est dure et tout. Et en fait, c'était très prenant, émouvant et...
Je peux juste dire que c'était super bien, en fait. C'est très triste. Et je pense pas que ça va être si triste, en fait. Mais aussi, c'était très intéressant. Les plans industriels et tout, waouh. C'était filmé avec une caméra pas ouf, quoi. Juste des photos et des images, quoi. C'était intéressant comment les gens ils étaient très à l'aise avec la caméra.
Ben, il en parle hein, de ça, c'est vrai qu'il les a rencontrés et tout ça, mais très vite ils filment quand même. Et puis, en fait, ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui acceptent la façon dont ils se comportent avec sa caméra. Ouais. Ça introduit un rapport beaucoup plus acceptable pour des gens. Il y a d'autres qui sont très agressifs. En fait, même à la même distance, mais la même façon de se tenir, enfin, la façon de se tenir est très différente entre, on va dire, le côté un peu paparazzi, où on va être agressif. Ouais. Lui, il écoute, c'est bien avec le rail que dans sa posture aussi, il sent que, les gens sentent hein, qu'il va pas, que c'est un gars bien, quoi, qui n'est pas manipulé. Il fait des cadres, hein, donc de toute façon, il y a déjà...
Peut-être qu'ils étaient contents d'être filmés, en fait. C'est une catégorie qu'on ne parle beaucoup, je pense. Enfin, en tout cas, peut-être au début des années 2000, je ne sais pas si c'est plus grand, mais... Puis, enfin, surtout, peut-être ça mettait un peu de piment dans leur quotidien, parce que, enfin, quand même, c'est très répétitif. Hein.
En même temps, la vie, elle continue. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il réussit quand même à avoir cette intimité. C'est pas du tout intrusif, quoi. Il est là et... Et les gens vivent des choses difficiles et ça perturbe pas un truc. Enfin, c'est comme tu dis, peut-être qu'on ressent quelque chose, mais ça ne les perturbe pas. C'est intéressant, ça.
Il y a beaucoup de scènes où ils sont dans les locaux des ouvriers, où il est autour de la table et on sent qu'il est présent, qu'il est autour de la table avec eux. J'ai pas eu l'impression que... Les gens qui le filmaient, enfin, qu'on ne sentait pas la caméra, je trouve qu'on sentait la présence, mais comme une présence en fait. Et après, je me suis quand même posé la question justement de son outil.
Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient, enfin, ils faisaient un peu, pas leur show, mais en fait, ils sentaient qu'il y avait de la caméra, quoi, qu'ils aimaient ça, je sais pas.
Et en tout cas, ils parlent assez librement parce qu'ils parlent des vols de. Enfin, qu'ils ont volé le charbon, alors que c'est des choses qui ne sont pas. censée être dite, quoi. Donc c'est déjà, il est rentré dans une intimité où une enfin, les ouvriers se sentent assez à l'aise pour parler entre eux, en fait.
C'est vrai que même s'il n'y a pas de, enfin, tu sais, il y a pas d'ellipse, il y a pas de montage. Enfin, pourtant, il y a quand même un rythme. J'arrive pas trop à savoir à quoi c'est dû, mais tout est là.
Je trouve que c'est ça aussi que c'est ça que j'aime bien. C'est ils sont juste là. Il n'y a pas de scène coupée quand dans les scènes de dialogue. C'est pas coupé, c'est pas un montage. Et du coup, et comment c'est filmé, on se retrouve avec eux. Cette sensation qui est vraiment intéressant, je trouve. C'est d'être avec eux et être avec eux. Voilà.
Je sais pas comment.
Parce que c'est très monté, en fait. C'est, ouais. C'est très structuré. Donc, il y a une vraie écriture dans le montage, après. C'est toujours le débat. Hein. Il a énormément. Comme il n'y avait rien de prévu, puisque il filme ce qui se passe. Mais après, il a vraiment scénarisé le montage. Et c'est vrai qu'on a des moments où il exprime l'ennui par les répétitions. Puis à un moment, paf, il y a une scène un peu plus où il se passe quelque chose de plus. Et c'est vrai que c'est parce qu'on regarde un film. Quoi. Parce que lui, il a toujours voulu montrer ce que tu disais, là, les gens qu'on ne voit jamais. Quand on parle jamais.
Le père est arrêté un moment pour vol. Et donc le père disparaît, le fils se retrouve seul dans la maison. Il y a une scène où donc Bambine qui filme le jeune seul, et là je trouve qu'on sentait qu'il y avait un échange, que la caméra n'était pas absente. Enfin, il y a vraiment un échange de regards. Cette scène n'aurait pas eu lieu, je pense, s'il n'y avait pas eu la caméra. C'était une scène de partagée, en tout cas, enfin, je pense, entre deux personnes. J'ai l'impression que.
C'est un peu comme un recueil et un appui aussi, peut-être, à ce moment-là, difficile dans la disparition du père. C'était très émouvant, en tout cas.
Parce que cette scène, du reste, par exemple, quand il sort les photos, la scène du restaurant, on peut s'imaginer très bien comment ça aurait pu être filmé par quelqu'un d'autre, enfin, par beaucoup d'autres. Et là, je trouve qu'on ne sent jamais l'obscénité. C'est-à-dire qu'on est avec eux, dedans, et c'est un moment très dur, hein, parce que c'est dur ce qui se passe, mais il n'y a pas ce malaise qui est dû à la façon dont c'est filmé. Parce que c'est très très fort. C'est toute sa qualité de cinéaste, puis aussi de personne, quand même. Parce qu'il ne fait pas dans le spectaculaire.
Une image, c'est quand au Nouvel An, ils mangent les raviolis là dans leur locomotive. Ils sont en train de conduire et puis ils sont tous avec leur cuillère et ils mangent. Ça m'est resté, je sais pas pourquoi, mais.
Il y a quand même un truc qu'on chauffait dans la locomotive.
Ouais, c'est vraiment leur maison en fait. Ils passent tellement de temps là que.
Mais dans L'Homme sans nom, qu'un autre film de Bambine, il rentre en fait dans la tanière, c'est vraiment une tanière, hein. C'est un homme qui vit seul, en autosuffisance, dans un ancien village troglodyte, et donc il rentre, et là il est mis à ça, dans un trou, quoi. Et il a filmé pendant un an, mais avec les saisons aussi. Ouais. Et le gars, il lui a pas dit son nom. Il n'a pas adressé la parole. Le film. Donc il y a une très grande intimité tous les deux, sauf qu'il est très très fort.
J'ai écrit un peu texte, contexte. C'est l'économie. C'est pas parce que je suis chinois, c'est un phénomène, ça m'intéresse, même beaucoup de pays. Russe, Allemagne, Amérique. Et quand on regarde le film, comment on regarde la condition des ouvriers, ce que Wang Bing a enregistré, c'est la fin des entreprises nationales. En fait, les ouvriers en ce moment, ils sont bien payés, ils sont déjà bien payés en Chine. Ils sont les meilleures conditions. Et des filles veulent bien faire le mariage avec des ouvriers. Et on voit l'industrialisation. Au début, il a détruit le mode économie des paysans, campagne en Chine. Beaucoup de paysans doivent participer à l'usine pour payer le coût de l'industrialisation. C'est pourquoi, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez, il y a beaucoup de pays pendant le cheminement pour l'industrialisation, il y a famine, grande famine. Et l'usine, son construction, c'est parce que l'aide de Soviet Union. Et cette époque, c'est 80-90, oui. Il y a une grande crise économique parce que en ce moment-là, la Chine veut ouvrir le marché, joindre la globalisation. Et le produit des marchandises avançait beaucoup, augmentait beaucoup. Des gens sont été utilisés par des industries. Mais le besoin de production de la marchandise a dirait augmenter le prix des matériaux. On voit le nord des usines comme Wang Bing. Il a filmé des usines, principalement son gros matériaux lourds, métal, etc. comme ça. Et le besoin de la marchandise de la société sont augmentés aussi à dire le prix de la marchandise. Mais on ne peut pas augmenter tout, le matériau et marchandise, parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Le gouvernement doit contrôler le prix. C'est ça, l'entreprise nationale peut contrôler le prix pour fabriquer un plan. Pour, par exemple, le métal est moins cher pour tout le monde. C'est ça le marché de peu fonction. Sinon, il y a la crise financière, économique. Mais à cause de ça, le gouvernement, des gens, il existe bureaucratie. Officiel, il peut vendre moins prix des matériaux au marché pour gagner l'argent. Mais pour l'entreprise nationale, ils ne gagnent pas. C'est pourquoi on voit des usines, ils sont plus en plus tombés, pauvres. Les salariés n'ont pas augmenté. À cause de ça, des filles deviennent le prostituteur. Ils viennent à Amérique et Europe. Des garçons deviennent des criminels. Il y a aussi une époque très stricte, le droit. Beaucoup de garçons sont tués par le policier, le droit, et c'est officiel. C'est, par exemple, si je parle avec toi dans la rue, tu n'es pas content, tu vas avec la police et il va me tuer. C'est comme ça, c'est simple. Et pour la sécurité de la société. Après ça, il y a beaucoup des enfants, des riches, ils vont dehors. Amérique, à cause de bureaucratie, corruption, il peut bien vivre dans l'étranger. C'est un contexte. Oh, j'écris beaucoup. Je ne sais pas, vous voulez écouter. C'est je voudrais expliquer un peu l'économie. C'est ok, bref. C'est pourquoi son crédit est politique, pas le quotidien en général.
Il en parle en documentant, en fait. C'est le fait de garder une trace de ça, qui est aussi, je pense, une parole politique.
Ouais, j'espère que vous comprenez bien. Et plus pour cet phénomène, n'est pas que chinois.
Moi, je suis d'accord avec toi, tu as raison. Je pense que dans chaque pays, il existe des scènes comme ça. Partout dans le monde, même je pense qu'en France, ça peut arriver des endroits, des usines, je sais pas, très tristes. Mais je pense que c'était plus intéressant pour moi de voir comment, la façon il a filmé l'interaction avec les gens. Et,
ouais.
D'ailleurs, il y a des cinéastes en France qui ont documenté la chute aussi de la sidérurgie, parce que ce qui se passait, le fait que la sidérurgie en Chine, l'acier en Chine, soit beaucoup moins cher, a fait complètement effondrer la production d'acier en Europe, ouais. Et notamment en France.
Ça, ouais.
C'est à grand est de la France, il y a plein de villes entières, de villages qui sont tombés complètement dans la misère, mm-hmm. parce que l'acier en France, c'était plus rentable de fabriquer de l'acier en France, mm-hmm. parce qu'elle était fabriquée moins chère en Chine. Mm-hmm. En fait, les mêmes situations se retrouvaient mm-hmm. de l'autre côté, l'une par rapport à l'autre. Comme, c'est vrai que c'est un grand mouvement de la mondialisation.
Ouais.
Et ce que lui, il n'explique pas. C'est dans le documentaire, c'est vrai qu'il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui filment et qui doivent. Où il n'y a que l'image, il n'y a pas de commentaire. Il y a ceux qui vont. Il n'introduit pas, à part juste le texte au début, hein. En fait, il n'introduit pas vraiment la situation, ouais. Mais on comprend quand même que tout s'écroule.
Ouais.
Que dans les images, quand on voit l'état des trains, l'état des bâtiments, on voit que c'est la fin d'un monde. Donc. Là, il y a des DVD là, qui s'appellent le groupe Medvedkin, qui est en fait un groupe de cinéastes qui avait été monté, donc Chris Marker, ça, qui avait eu l'idée de dire bon, on va former les ouvriers pour qu'ils filment eux-mêmes. Mm-hmm. Avec cette idée que oui, ok, les cinéastes, on a la plupart des cinéastes, voilà, ils ont fait des études souvent de cinéma et tout ça. Donc, ils vont filmer les ouvriers. Et, dans les années 60, 68, tout ça, on s'est dit bon ben non, il faut que ce soit les ouvriers eux-mêmes qui se filment et qui fassent des films. Et donc ils ont fait de la formation en fait. Alors il y a chez Peugeot à Sochaux et il y a tout un tas de petits films qui ont été faits de fiction, hein, aussi, par les ouvriers, aidés techniquement, et puis aussi dans l'écriture, par des cinéastes. Et c'était un groupe...
Medvedkin.
King. Non, King. Non.
Il y avait les ateliers Baran, enfin, qui existent toujours.
Ah, oui.
Un lieu de formation... Claire Simon, elle avait ça, par contre. Si vous connaissez Claire Simon. Elle était formée comme ça. Et ses premiers documentaires, c'est produit par l'atelier Baran, qui existe toujours. Ce qu'on appelle l'éducation populaire. Quoi. C'est de permettre à des gens qui n'ont pas suivi d'études, qui sont déjà, par exemple, dans un cursus professionnel, de pouvoir, à un moment, changer de vie et se mettre à faire du cinéma documentaire.
C'est un peu comme l'idée de l'arpentage, de la nature dans les usines. De production et tout, le partage de connaissances et la transmission. C'est super intéressant.
Sur ce sujet, il y a un autre film que j'aimerais bien vous proposer qu'on voit, qui est un film de Jean-Daniel Bollé qui s'appelle Pour mémoire, la forge. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on